Alors bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à cette autre édition des bénédictions matinales en ce vendredi 9 décembre. Donc on avance petit à petit, mais à pas sûr, vers la fin de l'année. Et puis d'ici là, on continue donc nos études quotidiennes sur le fabuleux chapitre de Hébreux 11. Le chapitre sur la foi, le chapitre sur les héros de la foi, et on en est rendu à une étude toute particulière au verset 33. Donc c'est une section où on ne nomme plus les personnages, on dit des choses qu'ils ont accomplies, des choses qui se sont passées dans leur vie, et on essaie de les rattacher, donc nous, à des personnages bibliques. Et cette semaine, on étudie de façon toute particulière le cas de Salomon, le troisième roi dans l'histoire d'Israël, donc le fils du roi David, qui va être reconnu comme un homme des plus sages. En fait, on nous dit de lui qu'il aura été l'homme le plus sage de l'histoire de l'humanité. Donc, les deux passages, pour ceux qui prennent des notes, bien entendu, dans Hébreux 11, le verset 33, c'est un groupe nominal qu'on étudie ici, qui nous réfère à Salomon. Et puis par la suite, donc le passage clé, ou le passage référence dans 1er Roi au chapitre 3, les versets 3 à 15. Si vous entendez cogner, comme actuellement, c'est Néma qui se fait présente. Elle veut que son maître s'occupe d'elle. Donc, on s'en excuse pour ceux qui ne connaissent pas Néma. C'est mon chien. Voilà. Alors, on va prier et après ça, on commence la lecture pour ce matin. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. On te demande, Seigneur, d'ouvrir notre pensée, notre entendement, de faire en sorte, Seigneur, que nous puissions pleinement saisir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Répands ta grâce, répands ta bénédiction et en toute chose, Seigneur, que ta parfaite volonté s'accomplisse en nous et que nous puissions pleinement recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on lit dans Hébreux au chapitre 11, verset 32 au verset 34, et je relirai le groupe nominal important tout à l'heure. Donc, Hébreux 11, 32 nous dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Et la section qu'on prend depuis hier pour nous référer à Salomon, c'est la partie qui dit « qui par la foi exercèrent la justice ». Qui par la foi exercèrent la justice. Et maintenant, on tourne donc dans le passage de référence, 1er Roi au chapitre 3. On lit du verset 3 à 15, même si on étudie principalement ces jours-ci du verset 9 au verset 14. Donc, 1er Roi, chapitre 3, le verset 3 nous dit, ou même on peut commencer plutôt au verset 5. Donc, 1er Roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Donc la zone qu'on étudie dans ce passage référence, c'est du verset 9 au verset 14. Et hier, on a commencé à décortiquer un peu le verset 9. On a vu trois points. On a vu même un peu avant le verset 9, dans le verset 8, lorsque Salomon confesse qu'il est trop jeune, trop petit, bien peu connaissant pour diriger le peuple de Dieu et qu'il a besoin donc de sagesse. Donc on a vu l'humilité de ce roi qui a grandi auprès de son illustre père, qui a les connaissances de la cour royale, de comment on s'y comporte, de ce qu'on y fait, de l'autorité qui est liée à son statut de roi et qui malgré tout va chercher auprès de Dieu toute la sagesse nécessaire pour servir son peuple et par la même occasion servir Dieu. Donc un, le premier ingrédient, c'était l'humilité. Le deuxième ingrédient, c'est nous était révélé dans le terme accordé, où on voyait que c'était non pas quelque chose qu'on allait chercher soi-même, mais qui nous était donné. Lorsqu'on parle d'octroyer, et ici octroyer la sagesse ou l'intelligence ou la science, c'était de comprendre que cela ne peut pas venir de nous, que cela ne vient pas de nos expériences personnelles, que cela ne vient pas de notre sagesse innée ou sagesse humaine, que cela ne vient pas d'un diplôme ou autre universitaire ou quelque autre diplôme qu'on pourrait avoir, que cette sagesse dont Salomon est en train de faire la requête ne peut venir que de Dieu. Alors, pour nous aussi qui sommes peut-être en train de servir, pour certains qui sont peut-être en position de leadership, reconnaître que tout ce que nous sommes, que tout ce que nous avons, que tout ce qu'on peut faire, ou tout ce que nous croyons pouvoir faire, ne vient en fait que de la grâce et de l'habileté que nous accorde Dieu. Troisième point, dans le terme serviteur, accorde à ton serviteur. Serviteur, le terme ébed qu'on a vu hier, qui nous parle littéralement d'un esclave, d'un servant, d'un sujet ou de quelqu'un qui est lié et enchaîné. Et les deux ou trois notions qu'on voulait mentionner avec ce terme-là, c'était tout d'abord de comprendre que nous sommes esclaves de Dieu, peu importe le rang de leadership qui pourrait nous être accordé, que les gens pourraient reconnaître au travers de nous, nous demeurons des serviteurs de Dieu. Deuxième point, ben, qui dit serviteur dit travail. Ça veut donc dire que la sagesse qui était demandée par Salomon n'était pas pour sa cause personnelle, n'était pas pour sa gloire ou sa vaine gloire personnelle, mais c'était pour servir Dieu et servir du fait même le peuple de Dieu. Et troisièmement, quand on parle d'esclave ou la traduction très littéraire du terme « ébède serviteur », donc celui qui est enchaîné, et la grande question pour toi et pour moi hier, c'était à savoir, est-ce que je suis encore accroché à Dieu? Est-ce que je suis encore lié à Dieu? Est-ce que je suis lié à Dieu de façon permanente, de façon éternelle, ou de façon sporadique, voire ponctuelle? Certains d'entre nous se lient à Dieu à quelques occasions par année, lors de quelques événements, souvent des événements qui sont peut-être un peu plus pénibles, des périodes qui sont un peu plus difficiles. À ce moment-là, on se rapproche de Dieu. Alors qu'ici, le serviteur qui est mentionné, le terme qui est utilisé, est donc celui qui est enchaîné constamment à la cause, au travail, à la tâche qui lui est octroyée. Et pour toi et pour moi, c'était donc de se demander où j'en suis dans mon lien avec Dieu aujourd'hui. Est-ce que je suis effectivement attaché à Dieu comme au premier jour, ou je m'attache, je me détache, je me rattache au gré des saisons et des événements. Aujourd'hui, on continue donc ce verset 9 où Salomon va dire « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour servir, pour juger ton peuple. » Un cœur intelligent pour juger ton peuple et par la suite pour discerner le bien du mal. Un cœur intelligent pour juger ton peuple. Trois mots importants. Cœur, intelligent et par la suite, bien entendu, juger. Donc, cœur, en hébreu, c'est le terme leb, L-E-B. J'appelle pour ceux qui prennent des notes, leb, L-E-B, cœur. Intelligent, c'est le terme sama, S-A-M-A. Je répète, intelligent, sama en hébreu, S-A-M-A. Et enfin, juger, toujours en hébreu, sapat, sapat, S-A-P-A-T, S-A-P-A-T. Donc, revenons sur chacun de ces mots et on va voir que ça nous amène plus profond qu'une lecture sommaire. Allons-y tout d'abord et on gardera le mot « cœur » pour la fin de cette explication. Un cœur intelligent. Intelligent, le terme « sama » qui veut dire « écouter, être attentif ». Un cœur intelligent. Alors, on penserait que le terme « intelligent » veut dire « qui est super connaissant », »,« qui est doté d'une connaissance que les autres n'ont pas ». En fait, on comprend ici que l'intelligence, d'après Dieu, c'est cette capacité à écouter. À écouter qui? À écouter quoi? Bien entendu, on voit que Salomon ne s'adresse pas aux sages de cette terre. Salomon n'est pas en train de parler à d'autres illustres dirigeants de son époque. Salomon, dans ce rêve, puisque c'est un songe qu'il a lorsqu'il s'adresse à Dieu, eh bien, Salomon est en train de demander à Dieu la science et l'intelligence. Et si intelligence veut donc dire écouter, à qui est-il en train de parler? C'est Dieu. La question pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je suis attentif à la voix de Dieu? Et à la voix de Dieu ponctuelle, pour des événements ponctuels de notre vie, pour des événements qui surviennent à l'occasion dans notre existence, mais être attentif à la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu aussi pour le mode de vie qui est le mien. Est-ce que je peux dire qu'effectivement, ma vie de tous les jours correspond à ce que la parole de Dieu déclare comme acceptable, comme agréable, comme approuvable de la part de Dieu? Il y a un article de loi, lorsqu'on se présente devant un juge, qu'on ne peut pas exercer, où il y a un fait qu'on ne peut pas exercer, on ne peut pas se présenter devant un juge et dire « j'ai brûlé un feu rouge parce que je ne savais pas qu'il fallait respecter un feu rouge ». Tu ne peux pas aller devant le juge et dire « on m'a donné une amende parce que je ne portais pas ma ceinture de sécurité, mais je ne savais pas que je n'avais pas le droit de porter, que je n'avais pas le droit de ne pas mettre une ceinture de sécurité ». Tu ne peux pas te présenter à la cour et leur dire « voilà, je déambulais, je marchais sur l'autoroute parce que je ne savais pas que de marcher sur l'autoroute était illégal ». Ou « je me suis fait arrêter, on m'a accusé de vol, mais je ne savais pas que je n'avais pas le droit de prendre quelque chose qui ne m'appartenait pas. Nul n'est supposé ignorer la loi. Voilà un fait qui est acquis dans toutes les grandes civilisations, dans toutes les grandes sociétés, plutôt de notre époque. Je ne peux pas prétexter devant un juge, je ne savais pas qu'il y avait cette loi ici. Lorsque je me retrouve dans un pays, je dois me comporter selon les règles, selon les lois de ce pays. Je ne peux pas enfreindre ces règles, parce que si je les enfreins, je ne peux pas prétexter l'ignorance. Par rapport à Dieu, l'ignorance est tout aussi infondée. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu, parce que Dieu nous éclaire et qu'il a mis en nous une pensée d'éternité, une pensée qui, de façon intrinsèque, nous assure de ce qui est bien, de ce qui est mal. Assurément, avec les siècles qui passent et avec le péché qui ne cesse d'augmenter, assurément, il y a des choses que Dieu déclarait mauvaises et qui maintenant, socialement parlant, sont tout à fait acceptées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous serez assurément tous capables de trouver des faits sociaux qui, il y a encore 50 ans, étaient réprouvés, mais qui aujourd'hui sont banalisés. Est-ce que ça en fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un péché? Non. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est le code civil de Dieu. C'est le livre des règlements, le livre des règles de Dieu, donc la parole de Dieu. Alors la question pour toi et pour moi aujourd'hui, es-tu intelligent? Donc écoutes-tu et es-tu attentif à la parole de Dieu? Par contre, une connotation supplémentaire sur le terme intelligent, le terme sama, ça nous pousse dans notre écoute et dans notre attention envers Dieu à un niveau supplémentaire ou à un niveau plus élevé. Sama, intelligent, veut aussi dire obéir. C'est comme si dans la notion hébraïque du terme, tu ne peux pas connaître une chose, savoir une chose et ne pas l'appliquer. C'est comme si c'est incompréhensible et incompatible de savoir un fait et d'aller à contre-courant. Si tu es intelligent, d'après le texte biblique, ça veut donc dire que tu vas connaître la chose et que tu vas l'appliquer à ta vie. Parfois, malheureusement, nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons sa pensée et nous refusons de lui obéir. Et par conséquent, tu peux avoir plein de connaissances, mais tu n'es pas considéré comme intelligent. L'intelligence est celui qui aura saisi une chose, entendu une chose, qui aura été attentif à une chose et qui aura appliqué cette chose. Alors pour nous, ça nous pousse dans des réflexions. Tu pourrais te targuer de connaître la parole de Dieu de A à Z, de mieux la connaître que quiconque. Mais si cette parole, tu ne l'appliques pas dans ta propre vie, cette parole, tu la rends vaine, tu la rends inefficace. Et par conséquent, tu es, oui, quelqu'un de connaissant, quelqu'un qui instruit, tu pourrais même te targuer d'être un érudit, mais l'érudit qui n'applique pas ce qu'il connaît, aux yeux de Dieu, n'est pas intelligent. Alors Salomon disait, Seigneur, permets-moi d'être intelligent, non seulement d'entendre, non seulement d'y prêter attention, mais aussi d'appliquer ta parole. Permets-moi d'être intelligent pour juger ton peuple. Juger, le terme sapat, qu'on a appelé tout à l'heure, S-A-P-A-T, qui veut dire gouverner, rendre un verdict et punir. Donc Salomon savait que ce qu'il allait prononcer comme argumentaire, ce qu'il allait prononcer comme loi, ce qu'il allait prononcer comme édit, ce serait quelque chose qui, oui, allait gouverner le peuple, quelque chose qui allait servir de base dans la pratique de l'ensemble de la nation. Mais c'est ce qui allait aussi être quelque chose qui allait juger le bien du mal, qui allait juger ce qui était acceptable de ce qui était inacceptable, et quelque chose qui allait par conséquent, après le jugement prononcé, qui allait aussi appliquer une peine. Être intelligent, c'est connaître, oui, la pensée de Dieu, mais laisser aussi cette pensée de Dieu nous gouverner. Laisser cette pensée rendre des verdicts dans notre vie. Crois-moi, Dieu a une opinion bien ferme sur ton existence. Dieu a une pensée très détaillée et très précise sur ton mode de vie. Dieu a même des pensées sur les choses que tu fais de façon inopinée. Tes réactions, tes choses vers lesquelles tu es enclin. Dieu a une opinion là-dessus. Dieu a une pensée là-dessus. Et il rend des verdicts sur cela. Non seulement rend-il des verdicts sur tout ce que tu prononces audiblement, il rend des verdicts sur tout ce que tu fais par tes actions concrètes, mais il rend aussi des verdicts sur les penchants de ton cœur. Et lorsqu'il rend un verdict, il rend un verdict d'approbation ou un verdict de désapprobation. Un verdict de bénédiction ou un verdict de punition. Tu ne peux pas ignorer la loi de Dieu. Alors, pour t'assurer d'être dans l'aval de Dieu, pour t'assurer d'être dans l'approbation de Dieu, le meilleur des moyens reste encore de devenir intelligent, d'écouter, d'être attentif et bien entendu d'obéir. J'aimerais qu'on retourne au cœur, parce que le cœur a une connotation toute particulière en langue hébraïque. Le cœur nous parle de la nature d'une chose, du centre d'une chose, nous parle d'une connaissance et d'une compréhension. Donc, deux notions particulières, connaissance, compréhension, donc ce que je suis intellectuellement capable de saisir, mais de surcroît à cela, le cœur parle aussi de la nature intrinsèque profonde de qui nous sommes, du centre de notre existence. Pourquoi j'aime qu'on aille aussi précisément dans le sens du cœur? C'est parce que régulièrement, il y a des gens qui vont tout simplement avoir une foi d'apparat, une foi d'extérieur, une foi avec des choses qu'on démontre, des actions qu'on pose, mais qui à l'intérieur d'eux-mêmes sont complètement en contradiction avec leur foi. Vont dire les bons mots, vont pratiquer les bonnes actions, mais avec les motivations qui ne sont pas les bonnes, avec les objectifs qui ne sont pas adéquats. Lorsque Jonas est allé proclamer qu'un jugement allait tomber sur Ninive, l'objectif de Jonas n'était pas la rédemption de Ninive, n'était pas la restauration de Ninive, n'était pas la repentance de Ninive, mais était la condamnation de Ninive. Jonas se réjouissait dans le fait que Ninive allait être détruite, Ninive, cette grande ville. Réjouissait avec Dieu, comme on le voit notamment dans Jonas au chapitre 3, c'était que Ninive soit sauvée. Dieu a même demandé à Jonas, est-ce que ça ne te dérange pas que je ne prêterai pas attention aux hommes et aux animaux de cette grande ville? Est-ce que ça ne te dérange pas qu'ils périssent? Et il pose cette question à Jonas. Pourquoi la pose-t-il? Pour faire ressortir chez Jonas ses failles, son mauvais côté, ses mauvais penchants, son mauvais cœur. Alors on voit ici quelqu'un qui, par la force, a fini à abdiquer devant Dieu. Et on peut croire qu'après 3 jours dans le poisson, il va être volontaire et il va être motivé pour accomplir la volonté de Dieu. Non, il ne fait que l'accomplir pour cocher la case en disant « je l'ai fait ». Mais les motivations que Dieu va faire ressortir par la rédemption qu'il accorde à Ninive, c'est des réactions dans le cœur de Jonas qui sont mauvaises. Alors, quelle est ta nature? Quel est ton cœur? Lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu sonde au-delà de ce que les hommes peuvent voir, lorsque Dieu regarde ton cœur au-delà de ce que tes lèvres proclament et de ce que les gens autour de toi entendent, est-ce que Dieu voit un aussi beau cœur que ce que les gens pourraient croire? Est-ce que Dieu est tout aussi d'accord sur ton existence et sur les parties intimes de ton être comme ce que les gens pourraient applaudir autour de toi? On peut berner les hommes, on peut berner des congrégations, on peut berner des pasteurs, on peut berner des sociétés tout entières et des nations tout entières, mais on ne peut pas berner Dieu, parce qu'il va jusqu'à sonder les plus profondes motivations de chacun d'entre nous. Être intelligent, c'est comprendre la volonté de Dieu, l'appliquer, mais pas simplement dans l'action même, mais aussi dans la pensée qui la suit, dans la pensée qui lui est liée. Salomon va demander à Dieu, « Permets-moi de penser comme toi. Permets-moi de voir comme toi. Permets-moi de ressentir comme toi. » Je me rappelle ce chant qu'on avait l'habitude d'interpréter il y a encore quelques années, qui disait « Donne-moi un cœur comme toi, Seigneur. » Des yeux qui regardent comme toi, un cœur qui aime comme toi. Permets-moi d'aimer comme ton cœur aime. Permets-moi de voir avec tes yeux, Seigneur. C'est là où le verset dans le Nouveau Testament qui nous dit ce n'est plus Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et ici, on parle de cette transformation profonde de notre être, où même nos sentiments laissent le pas aux sentiments de Dieu, où nos réflexes premiers et primaux vont laisser la place aux réflexes, à la pensée, au cœur, à l'attitude de Dieu. L'intelligence va bien plus loin qu'un simple mot utilisé, va bien plus loin qu'un discours, va bien plus loin qu'une simple compréhension. L'intelligence aux yeux de Dieu, ça va être cette faculté que tu peux avoir et que je peux adopter aussi, d'entendre, de chercher la voix de Dieu, d'y être attentif, de l'appliquer non seulement dans la pratique extérieure de la chose, mais aussi permettant à cette pensée de Dieu de transformer, de changer mon être intérieur. Et Salomon va conclure ce verset 9 en disant « Un cœur intelligent, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Pour discerner le bien du mal. Discerner le terme « bin », B-I-N, « bin », qui veut dire percevoir, comprendre, saisir, et aussi amener à comprendre. Et on va revenir sur ce terme discerner. Le bien, tob, qui veut dire, donc tob, T-O-B, qui veut dire agréable, plaisant, acceptable, permis, excellent. Ici, on nous parle des valeurs mêmes de Dieu. Est-ce que en moi, j'ai ces valeurs de Dieu qui permettent de faire une chose, de dire une chose, de penser une chose, de ressentir une chose qui est agréable à Dieu? Est-ce que je suis capable de reconnaître ce qui est plaisant aux yeux de Dieu, ce qui est acceptable aux yeux de Dieu, ce qui est permis aux yeux de Dieu. Est-ce que je suis capable de faire un jugement de valeur entre ce qui est bien et ce qui est excellent? Reconnaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant Dieu. Mal, c'est le terme ra, R-A, qui veut dire mauvais, déplaisant, mesquin, voire pire. Quatre définitions, ou quatre synonymes plutôt, pour le terme mal. Mauvais, déplaisant, mesquin, pire. Revenons au terme discerner, percevoir, comprendre, saisir. Donc, être capable de le percevoir, de connaître le cœur de Dieu en étant capable de reconnaître ce qu'il aime de ce qu'il n'aime pas, ce qu'il approuve de ce qu'il désapprouve, ce qu'il bénit de ce qu'il maudit. Avoir cette relation intime avec Dieu qui nous permet dans nos actions de tous les jours d'avoir une bonne idée de ce que Dieu aime versus de ce qu'il n'aime pas. Et par conséquent, si je suis intelligent, je vais chercher ce que Dieu aime, je vais appliquer ce que Dieu aime et je vais faire les choses comme Dieu aime qu'elles soient faites. Mais le terme discerner va plus loin encore et nous parle d'amener à comprendre. Ça veut dire que le discernement du bien et du mal doit aussi être partagé. C'est non seulement pour que moi je connaisse ce qui est bien, pour sauver ma propre tête, mais c'est aussi d'être capable d'exposer ce que Dieu aime pour amener d'autres à sauver leur propre tête, si vous me permettez l'expression. En fait, la foi, comme on l'a souvent dit à travers nos bénédictions matinales, n'est pas quelque chose que je peux garder pour moi-même. La foi doit s'exprimer. Contrairement à d'autres fois, à d'autres religions, à d'autres croyances, la foi chrétienne se veut une foi de témoignage, une foi qui s'expose. La foi chrétienne appelle à faire d'autres croyants, appelle à témoigner de ce que l'on a connu, de ce que l'on a vécu et de ce qu'on a expérimenté comme étant vrai. Tu ne peux pas te dire chrétien et te taire. Tu ne peux pas te dire chrétien et garder la foi que pour toi. Si tu te dis chrétien, tu dois exposer cette foi. Tu dois partager cette foi. Tu dois en amener d'autres à connaître cette foi. Et cette foi, c'est de savoir qui est Dieu, ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, ce qu'il approuve, de ce qu'il désapprouve, et faire connaître le plan de salut à travers la mort et la résurrection de Christ pour le pécheur repentant. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, les grandes questions pour toi et pour moi aujourd'hui, on va les limiter à deux grandes questions. Mon cœur est-il intelligent? Est-ce que ma nature profonde est attachée à Dieu? Est-ce que ma nature profonde cherche à connaître Dieu, à faire ce que Dieu trouve comme agréable et plaisant, ce que Dieu approuve? Est-ce qu'elle cherche, ma nature toujours, est-ce qu'elle cherche à faire les choses avec les sentiments, avec la pensée, avec l'objectif que Dieu a? Il ne suffit pas de faire la chose pour être agréable à Dieu. Il faut le faire avec le cœur qui se doit. Il faut le faire avec la motivation qui se doit. Voilà pourquoi ici, Salomon ne demandait pas la sagesse pour lui-même, comme on l'a vu hier, mais demandait la sagesse pour exercer cette sagesse auprès de son peuple. Je ne cherche pas la bénédiction pour moi-même, mais je cherche à ce que ma vie soit une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Voilà le vrai serviteur, voilà le vrai leader, voilà le vrai enfant de Dieu. Et enfin, est-ce que je connais la pensée de Dieu pour la discerner pour moi-même, mais est-ce que je rends accessible aussi cette connaissance à d'autres? Est-ce que j'amène les gens autour de moi à connaître ce que Dieu aime de ce qu'il désapprouve, afin que tous et chacun, comme nous l'avons fait personnellement, nous puissions et ils puissent en venir à pratiquer des choses que Dieu aime et non pas continuer dans cette vie de pécheur qui a été la nôtre jusqu'à ce que nous venions à la repentance. Alors prions ce matin. Merci encore Seigneur pour ce temps de partage, ce temps d'exhortation. Nous te demandons Seigneur d'arroser ces paroles par ton onction toute précieuse, par ta pluie divine, afin Seigneur que ces paroles puissent s'enraciner profondément en nous, ayant trouvé une terre propice, qu'elles puissent germer, croître et être amenées à porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Aujourd'hui Seigneur, je prie pour moi-même, mais assurément nous avons plusieurs amis qui font certainement cette même prière, de nous accorder effectivement à nous qui sommes tes serviteurs, un cœur intelligent. Non seulement la connaissance de ce qui te plaît, mais que notre nature intrinsèque, que notre nature profonde puisse être transformée par ta présence, afin d'aimer avec ton cœur, afin de regarder avec tes yeux, afin, Seigneur, d'embrasser avec tes bras, afin d'avoir en nous les mêmes sentiments qui habitaient Christ. Je prie qu'il en soit ainsi pour ma sœur, mon frère, pour toute personne qui entendra cette parole à travers la journée ou dans l'avenir, qu'elle puisse, Seigneur, apporter un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Merci, Seigneur, de nous parler encore aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tout le monde peut dire Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va se retrouver ce soir pour notre temps de prière. Encore une fois, je serai seul ce soir, donc il n'y aura pas de période de chant. Je vais être là dès 7h, si je ne m'abuse, 7h moins 10 par là, un peu pour vous saluer. On ne prend pas le temps de saluer personnellement les gens le matin, mais le vendredi soir, lors de notre prière hebdomadaire, on prend le temps de vous saluer. Donc, si vous voulez avoir un petit coucou, une petite salutation, branchez-vous dès que je me connecte, environ 10 minutes avant le début de notre réunion. Donc, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, veillez à votre cœur, veillez à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et à ce soir. Au revoir tout le monde.